Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Et aujourd'hui, je suis avec mon complice Thomas Bonicel. On s'est eu vite parce qu'il y avait un événement qui nous a traumatisés, qui a fait pleurer des millions de fans. C'est le décès malheureusement d'Akira Toriyama. Akira Toriyama, c'est évidemment le créateur de Dragon Ball, mais aussi de plein d'autres mangas. On pourra peut-être en dire un mot. Il est décédé à l'âge de 58 ans. Bonjour Thomas.
Salut Jérôme, salut à tous.
Alors c'est toi hein, qui m'a dit, hey, il faut absolument qu'on en parle.
D'accord.
Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion en disant, c'est super, c'est une bonne idée. Est-ce que tu peux nous redonner peut-être les grandes lignes de qui était Akira Toriyama?
Bien sûr, on va resituer. Malheureusement, ouais, le 1er mars dernier, on a appris enfin le 8 mars, je crois qu'on a appris la mauvaise nouvelle. Une semaine avant, Akira Toriyama, donc le créateur de Dragon Ball, est décédé à seulement 68 ans, ce qui est quand même relativement jeune. On verra peut-être en fin d'émission ce qui a pu, entre autres, conduire à ça. Ce sera une thématique importante. Mais Toriyama, il naît au milieu des années 50, au centre du Japon, dans une petite ville qui s'appelle Kyosu, pardon, vous verrez qu'elle a son importance dans la suite de son histoire parce qu'il est relativement casanier, comme vous allez vite le comprendre. Et donc, il est adolescent, il est très très créatif, il se nourrit de beaucoup d'influences, pas seulement japonaises, c'est ça qui est assez intéressant. Et il va se nourrir notamment d'Astro Boy, dont il est absolument fan, mais il va aussi se nourrir du côté des Disney. Paraît-il qu'il est assez fan des 101 Dalmatiens, entre autres. Mais c'est en 79 que tout commence, donc en 79, il a à peine 24 ans, hein. Donc c'est encore relativement jeune. Il se fait repérer par un certain Kazuhiro Torishima qui va ensuite devenir son éditeur et qui voit en lui un vrai potentiel. Alors c'est vrai que le jeune Toriyama, bon, il a du talent, il a du potentiel. Il est aussi mu par une vraie aspiration à la liberté. C'est vraiment ce qui va le caractériser. Et dans ses rêves les plus fous, Toriyama, ce serait un autodidacte qui jouirait d'une liberté absolue. Et on va voir que son histoire, paradoxalement couronnée de succès, elle est un petit peu en contradiction avec cette aspiration initiale. Parce qu'en fait, très rapidement, donc, bon, lui, il commence dans la pub, il s'ennuie un petit peu parce que bon, il est obligé, il travaille dans un cadre très précis, très cadré, donc ça lui plaît pas trop. Comme je vous dis, lui, ce qu'il aime, c'est vraiment la liberté. Et il va pouvoir commencer à s'exprimer, notamment en 1980, avec son premier très très gros succès, qui s'appelle Dr. Slump, que moi j'ai pas forcément lu, qui est un manga qui a duré 4 ans, qui est une sorte de récit humoristico-futuriste, qui va tout de suite devenir un immense carton. Et ça, en fait, ça va pas trop lui plaire à Akira Toriyama,
C'est vrai.
parce que oui, ben en fait, tout de suite, donc son éditeur lui dit: tu devrais monter à Tokyo, voilà, c'est là que tu vas rencontrer un petit peu le beau monde du milieu du manga. Sauf que lui, Toriyama, il déteste socialiser. Il l'a dit plusieurs fois en interview, il déteste le monde, il est très très casanier. Et donc au lieu d'aller à Tokyo, de rencontrer du monde, il va plutôt s'installer un petit studio dans la ville que je mentionnais précédemment, Kyosu, là où il est né en fait. Parce que lui, son aspiration principale, c'est tout simplement d'être un peu tranquille et de pas trop être soumis aux interactions sociales et surtout de pas trop répondre à des codes. Donc il va plutôt rester tout à fait libre jusqu'à 1984.
Ouais, évidemment. Alors tu l'as dit, donc génie un petit peu contrarié par son succès, ça c'est pour le coup pas banal. Et puis Dr. Slump, il a cette particularité, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Son Goku qui apparaît, et évidemment il y a un lien. Son Goku,
Ça me rappelle quelque chose.
c'est le héros de Dragon Ball. Faut que tu nous parles un petit peu de ce Dragon Ball.
Alors Dragon Ball, donc je suppose que, à défaut de connaître, vous avez au moins entendu
Oui,
parler
quand
de
même.
Dragon Ball. C'est un pilier absolu, non pas du manga, mais de la pop culture, hein, vraiment au sens large. C'est l'histoire, je vais retracer très rapidement, très succinctement, l'histoire de Dragon Ball. C'est l'histoire du jeune Son Goku, de sa plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, qui va essayer de récupérer les 7 boules de cristal qui vont permettre de faire apparaître le dragon sacré qui permet d'exaucer pardon, un vœu. C'est évidemment une quête initiatique qui va durer pendant, je crois, environ 10-11 ans pour ce qui est du manga originel. En fait, Dragon Ball, c'est une création qui va complètement dépasser son auteur, puisque partant de Dragon Ball, qui va déjà être un succès absolument phénoménal, on va avoir droit à des jeux vidéo, à des films. Je crois qu'il y a environ 20, peut-être 21 longs métrages qui ont été réalisés sur Dragon Ball et son univers. Et au-delà des jeux vidéo, des films, tout ça, c'est surtout une entrée dans la pop culture au sens large, dans le sens où tout le monde voit à quoi ressemble Son Goku. Tout le monde connaît plus ou moins, et peut-être a joué à ça à la cour de récré, tout le monde connaît plus ou moins la technique du Kamehameha,
Eh
la
ben oui,
technique de combat
Kamehameha.
fameuse. Voilà. C'est passé dans la pop culture. Un des rares exemples qui sont un peu comparables, c'est peut-être Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, où voilà, tout le monde connaît. Si je vous montre une photo de Dark Vador, vous voyez qui c'est. Son Goku, c'est un peu pareil. Donc ça a vraiment dépassé complètement le cadre du manga. Et ça va être un phénomène absolument majeur jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'est plus qu'une œuvre, c'est un univers qui en fait ne mourra jamais.
Alors, c'est vrai que c'est l'œuvre emblématique hein, d'Akira Toriyama. Mais si j'ai bien suivi ce que tu m'as dit sur Dr. Slump, il n'aimait pas trop le succès. Alors, l'énorme succès mondial de Dragon Ball, est-ce qu'on sait un peu comment il l'a vécu?
Lui, il va le vivre reclus, hein. C'est vraiment le terme qui revient quand on fait des recherches sur lui. Donc lui, il vivait pardon, vraiment dans son petit studio dans sa ville natale. Donc en fait, un peu coupé de son succès. Alors, il en est quand même conscient parce que bon, évidemment, il va être, on va le voir soumis à un rythme de travail assez important lié en grande partie à ce succès-là. Il va aussi être associé évidemment aux suites de Dragon Ball qui vont exister. Il va pas forcément mettre la main à la pâte, mais il va du moins les superviser. Après, moi, je ne sais pas vraiment quelle est la part de voilà de légitime. Enfin, est-ce que c'est l'éditeur qui voulait conférer une forme de légitimité à ses suites? Ça, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, lui, il va le vivre plutôt comme une contrainte assez forte. Parce qu'en fait, Dragon Ball va raconter l'histoire de ce petit garçon, Son Goku. Une de ses caractéristiques principales, c'est d'être un petit peu candide, un petit peu naïf. On pourrait presque dire que c'est Toriyama à ses débuts. Et en fait, assez rapidement, Dragon Ball va se transformer, avec notamment le poids des décisions de la maison d'édition, vers quelque chose de beaucoup plus ample. On va commencer à faire des combats épiques, se diriger vers le soap-opéra, parce que c'est ça qui plaît, selon la maison d'édition. Bon, ils n'ont pas forcément eu tort sur le coup. Mais du coup, Toriyama, il va être un petit peu contraint du coup par ce succès-là. Alors, il va quand même trouver des petites bulles de liberté au sein de son œuvre. Une des petites anecdotes que j'aime bien, que je ne suis pas en mesure de vérifier, mais il y a quand même beaucoup de sources qui le mentionnent, c'est qu'il y a notamment pas mal de méchants de l'univers de Dragon Ball qui ont pris les traits des décisionnaires de la maison d'édition avec qui il n'est pas forcément en très bonne entente. Voilà, c'est juste aussi pour raconter un petit peu le personnage qu'était Toriyama et vraiment cette aspiration à la liberté qui l'animait.
Tu sais, ça me fait penser un petit peu à Alan Moore. Par exemple, avec ses déboires avec DC, hein, avec notamment ses grandes œuvres, notamment Watchmen, etc., ou V pour Vendetta, qui se fait un petit peu avoir dans les contrats et qui finalement réfute tout lien de paternité avec les adaptations cinéma et se fait un petit peu avoir et préfère en fait sa liberté plutôt que de se contraindre par DC, quoi.
Tu fais bien parler du cinéma parce que, bon, comme je le disais, il y a une vingtaine de longs métrages qui sortent. Alors évidemment, tous les longs métrages ne sont pas forcément validés, on va dire, par l'auteur. J'ai notamment en mémoire les adaptations hollywoodiennes, notamment une, je crois que c'est Dragon Ball Evolution qui sort dans les années 2010, qui est une absolue catastrophe. Bon, ça a donné lieu à des dérives en tout genre. En revanche, Toriyama ne renie pas non plus Dragon Ball, mais Dragon Ball ne ressemble pas forcément à ce qu'avait Toriyama en tête à ses débuts. C'est quand même important de le garder à l'esprit.
Ouais. Parlons un peu du créateur, c'est une sorte de génie du noir et blanc, notamment. Alors, j'ai pas tout compris, mais tu vas nous expliquer. Voilà, il avait moins de travail d'ancrage, mais voilà, c'était un génie de ce côté-là. Est-ce qu'on peut dire un mot de son style?
Bah, son style est relativement classique, il s'inscrit dans une forme de continuité, notamment avec, je te parlais d'Astro Boy au début, notamment avec Osamu Tezuma, qui est, si j'ai bien compris, vraiment une figure tutélaire du manga. Et donc son trait, peut-être que les fans de manga les plus puristes vont m'en vouloir, mais son style n'est pas forcément visuellement si particulier que ça. En revanche, lui, il va se caractériser par des petites folies dans le scénario. Lui, ce qu'il adorait, c'est improviser un petit peu des choses au scénario. D'ailleurs, ça lui arrivait parfois de surprendre un petit peu son éditeur. Il était un petit peu imprévisible comme ça. C'est même arrivé qu'il y ait certains personnages qui soient carrément un peu oubliés dans certains, enfin, d'un arc narratif à l'autre. Donc, c'était vraiment un créatif, certes visuel, mais lui, ce qui va le caractériser, c'est vraiment au niveau du scénario, un foisonnement d'idées absolument extraordinaire.
Ouais. On a parlé de Dragon Ball, mais il y a d'autres œuvres, hein, évidemment. Je pense notamment à Koa, à Kajika, à Sandland. Je suis pas du tout un spécialiste. Mais est-ce qu'il y a un manga qu'il revendiquait fortement, qui lui ressemblait particulièrement?
Écoute, c'est une très très bonne question. Ce qui est intéressant de mentionner, c'est qu'il y a beaucoup d'essais infructueux à la toute fin des années 70, avant qu'il commence à exploser avec Dr. Slump. Il y a énormément d'essais infructueux, donc c'est sans doute là qu'il va falloir aller chercher pour retrouver un petit peu l'essence de Toriyama. Parce qu'en fait, de ce que nous on connaît, on va dire, pas forcément les puristes du manga, ou enfin voilà, ceux qui se réfèrent surtout à la pop culture, donc à Dr. Slump et encore plus largement à Dragon Ball. En fait, on n'a jamais vraiment vu le véritable Toriyama. Donc, si on veut retrouver un tout petit peu le vrai Toriyama, il faut pas retrouver ces années publicité où là il était complètement contraint. Il faut pas revenir à après 1980 parce que c'est là où il commence avec Dr. Slump à être très connu. Et donc, il y a une toute petite fenêtre de tir avec plein de one shot comme on dit. Donc, c'est des mangas qui n'ont pas forcément donné de suite. En général, c'est plutôt le signe d'un insuccès. Et bah, dans ces one-shots-là, et bah, il faut aller creuser un petit peu et c'est là qu'on va trouver le Toriyama originel, si je puis dire.
Alors, tu nous parlais malheureusement de sa fin. Il est décédé très jeune, hein, 1958. A priori, un souci au cerveau, j'ai plus le terme exact, hein, mais une sorte d'AVC, hein, globalement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa disparition?
Écoute, moi, j'étais pas, enfin, je suis pas le plus grand fan de manga qui existe. Maintenant, bon, comme tout le monde, je connais les grands classiques, notamment Dragon Ball. Mais il y a un fait qui est assez marquant. C'est un ami à moi, Djibril, si tu m'écoutes, qui m'a parlé du rythme de travail des mangakas, dont moi, j'avais pas forcément conscience. Et en fait, pour réaliser un petit peu ce que c'est le rythme d'un mangaka, il m'a envoyé un emploi du temps type d'un mangaka, alors qu'il n'est pas Toriyama lui-même. Lui m'a envoyé l'emploi du temps de Eiichiro Oda, qui est le créateur de One Piece, qui est un phénomène absolument majeur, un peu plus récent lui, et d'ailleurs je crois que c'est le seul manga qui est plus vendu que Dragon Ball, donc c'est quand même pas mal. Et donc il m'a envoyé son emploi du temps, et c'est absolument catastrophique d'un point de vue strictement humain. Il n'y a pas beaucoup de cases libres dans cet emploi du temps, 7 jours sur 7, évidemment, des horaires de sommeil qui sont complètement réduites, et en fait, une liberté, on va dire, dans sa vie en général, qui est quasiment inexistante, c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser le mangaka pour produire des pages, produire des pages, produire des pages. C'est d'ailleurs assez miraculeux qu'il garde un niveau de qualité élevé, compte tenu du rythme de travail auquel il est soumis. Alors bien sûr, ils sont aidés d'assistants. Mais si on regarde un petit peu plus un peu plus en détail l'emploi du temps de Oda, ben, on s'aperçoit que par exemple le lundi, on lui prévoit 2 heures de sommeil, par exemple, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très sain. Ou sinon, on a des heures de sommeil qui sont réparties un petit peu partout dans la journée. Et donc, entre le travail sur les planches préparatoires, les très très courtes pauses repas, les heures passées avec les assistants, le travail sur les couvertures et les quelques rendez-vous avec l'éditeur, bah, malheureusement, on se rend compte que le mangaka, il est dans une forme, à mon humble avis, dans une forme d'exploitation. Et c'est aussi ça qui explique, alors c'est sans doute pas la seule raison, À mon avis, c'est un des facteurs qui explique que Toriyama est mort relativement jeune parce qu'il était notoirement connu pour se priver de sommeil, notamment dans sa période Dr. Slump. Il avait révélé se priver presque volontairement, enfin volontairement. Vu le succès du manga, il se privait parfois totalement de sommeil. Difficile de ne pas voir un lien et difficile de ne pas ressentir une pointe d'amertume, en fait. Voilà, moi, je suis pas forcément très attaché à tous ces auteurs-là, mais compte tenu de ce qu'ils ont livré à la pop culture et à la culture au sens large, il y a une petite pointe d'amertume de voir que le rythme de travail, leur rythme de travail, est aussi intense. Moi, ça m'enlève un tout petit peu de charme à la lecture, à la relecture des mangas. Ça doit pas nous empêcher de nous y replonger, évidemment.
Oui, parce que c'est à la fois une exploitation qui est liée à ses éditeurs, au rythme de parution, mais aussi pour satisfaire un besoin toujours plus complet
Une
de
commande, voilà,
total.
c'est
Mais oui.
ça. Entre 16 et 18 pages, enfin, on exige, je crois, entre 16 et 18 pages par semaine. Donc, et puis bon, évidemment, un niveau de qualité maximal. Donc, on a beau être assisté à droite à gauche, je pense qu'au bout d'un moment, ça craque. Voilà. Ça, c'est la petite pointe négative quand même.
Ouais, souvent en BD européenne, on estime que les dessinateurs font un album par an, un album de 48 ou 56 pages. Donc ça vous donne un petit peu le ratio global. Et ils ne chôment pas.
Non, non, clairement pas.
ils bossent déjà beaucoup et aussi se plaignent des rythmes. Bon, merci beaucoup en tout cas Thomas pour ce
Mais de rien,
panorama.
merci. Merci à toi, merci à tous.
Hein, on va recommander donc de lire un petit peu ce qu'avait fait Akira Toriyama, de peut-être regarder un petit peu les adaptations Dr. Slump et Dragon Ball Z aussi en priorité, mais il y a tellement d'autres choses que ça vaut vraiment le coup d'être un petit peu curieux et d'aller fouiner dans sa bibliographie. Merci à vous de nous avoir écoutés, puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. C'était la 355e émission. Bonne soirée à tous et à toutes.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.